Et bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle visite radiophonique avec Nelly Lafon, animatrice au Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et le retour de Caro, Caroline Entraigue du Conseil de l'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Bonjour Caro.
Bonjour.
Alors, on devait y aller le mois dernier, on a repoussé ce mois-ci. On va où alors aujourd'hui, Nelly?
Ah, ben on t'amène dans la haute vallée du Lot.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafon.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Voilà, après change fège, on va de l'autre côté, on va côté est et on est allé jusqu'à
Sainte-Hélène.
Eh bien oui, Ludo, aujourd'hui on est à Sainte-Hélène, dans la haute vallée du Lot. On a cet endroit où le paysage se resserre, on n'a pas encore basculé sur le schiste, on est encore dans le calcaire. Et on est dans le creux d'un petit vallon où ce village de Sainte-Hélène va s'installer un petit peu dans la pente et le long de cette rue principale où on est à ce moment-là. Autour de nous, on a une nature assez boisée, on a un paysage qui s'est quand même pas mal refermé sur ce contrefort-là du mont Lozère. Voilà, on a beaucoup de forêts de résineux, notamment. Et sur les plateaux, ensuite, on a des pâturages pour à la fois du bovin et à la fois de l'ovin. On a les deux ici, sur ce territoire-là.
Alors, pour compléter ce que disait Caro, donc la commune de Sainte-Hélène est évidemment intimement liée au Lot, qui la traverse de part en part. Et là, on le voit déjà un petit peu, on est descendu, donc on est au cœur du village. La rivière sépare le village en deux. Nous avons donc Sainte-Hélène rive gauche et Sainte-Hélène rive droite. La partie sud se compose d'un bâti ancien de type traditionnel sur lequel on reviendra tout à l'heure avec Caroline. Et l'essentiel, on le voit déjà, est bâti en calcaire, donc à cette couleur assez chaude, jaune, qui tire sur le gris. Et la partie nord se caractérise par des constructions un peu plus récentes. Et puis enfin, donc la commune se compose du hameau principal de Sainte-Hélène et d'un petit écart, le mont Valdon, situé sur les hauteurs.
Alors, on le voit ici, on est le long de cette voie qui mène au fameux pont dont parlait Nelly, qui sépare les deux parties du village. Faut savoir qu'à l'origine, du coup, le Lot vraiment irriguait la vallée et que les voies de communication étaient d'abord autour du Lot. On cheminait à pied notamment et on transportait des marchandises à dos de mulet. Du coup, les routes de la vallée qui relient aujourd'hui les villages n'apparaissent qu'au 19e siècle. Voilà, et elles permettent de faciliter les transports des personnes et des marchandises.
Oui, alors peut-être un petit mot sur ce fameux pont sur le Lot qui est daté de 1868. Il relie donc les deux rives de Sainte-Hélène sur le chemin vicinal numéro 1. Il commence à Sainte-Hélène devant l'église à la Croix de Mission et se prolonge sur le territoire de la commune de Pelouse. Et ce pont, il est reconstruit entre 1866 et 1876. Il a d'ailleurs un cartouche, il porte un cartouche avec les dates inscrites dessus.
Est-ce qu'il y a une continuité architecturale, Caron, entre les deux rives?
Non, on a vraiment en fait des extensions urbaines très contemporaines sur l'autre partie du pont, avec des maisons individuelles, avec leurs jardins, etc. On n'est pas du tout sur la disposition du bourg, comme ici, ça s'est fait un petit peu au coup par coup, de l'autre côté.
Donc là, on s'est garé juste en bas de la route, devant l'église. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de centralité dans ce bourg.
Non, on va le voir quand on va se promener tout le long. C'est vrai que le bourg de Sainte-Hélène est particulier dans le sens où on n'a pas l'église, en face la mairie, les équipements qui font centralité. Les bâtiments se font vraiment le long de la voie principale et ça donne un petit peu un caractère particulier à ce village. Et par contre, ce qui est très intéressant ici, c'est l'importance des jardins potagers qu'on va voir tout le long de cette voie, qui sont protégés par des murets en pierre. Et donc ça donne une singularité à ce village Sainte-Hélène, du fait qu'il n'est pas vraiment de centralité, mais qu'il soit vraiment le long de cette voie. Et on va le voir, c'est un village qui est riche en patrimoine rural.
Oui, effectivement, la commune possède de petits et gros trésors, des détails d'architecture en calcaire, des croix du XVIe siècle, une église romane remarquable, des toitures de losse, des petits jardins, ruelles, un béal bâti, fontaine, abreuvoir. Donc tout ça, tous ces détails qui témoignent de la vie rurale d'autrefois, ben, on va les découvrir au fil de notre balade aujourd'hui. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ici, l'homme est venu s'installer ici très tôt. En tout cas, le territoire est occupé dès l'époque gallo-romaine, puisqu'on a retrouvé des vestiges autour du village, tels que des tégulés ou encore des canalisations en terre cuite. Et pour donner peut-être une idée à nos auditeurs, donc la commune aujourd'hui possédait en 2018 104 habitants. Voilà.
Et du coup, qui était Sainte-Hélène, Nelly ?
Alors, Hélène est une impératrice de Rome et c'est la mère de l'empereur Constantin, qu'on connaît peut-être plus facilement qu'elle. C'était une chrétienne qui va se rendre en pèlerinage en Palestine et elle va rechercher les lieux saints pour recueillir les reliques de la nativité, de la passion et de la résurrection du Christ. Elle va aussi demander la construction de 3 basiliques pour les protéger. Hélène, en fait, Sainte-Hélène est connue pour avoir trouvé la couronne d'épines. Voilà. Donc un mot sur l'église devant laquelle on s'est arrêté. Cette église est mentionnée pour la première fois en 1529 comme une annexe du prieuré de Lanuéjouls. Mais elle est certainement de fondation plus ancienne. Elle a en tout cas, on va le voir, vraiment les caractéristiques d'une église romane. On peut donc la dater facilement du Moyen-Âge avec une nef, un chœur et un très beau portail d'entrée. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1851, on construit un clocher un peu plus moderne. Et enfin, chose à noter aussi, elle conserve son champ cimétérial à l'est, dont nous reparlerons un petit peu plus tard.
Pour te décrire un peu l'architecture de cette jolie église, donc comme le disait Nelly, c'est une église assez simple, hein, qui a un plan assez classique. Donc on a une voûte en berceau plein cintre pour la nef et on a des chapelles qui forment le transept. Le chœur, il est semi-circulaire et voûté avec un cul de four. On avait parlé voûté en cul de four pour l'église de la Rouvière. Et ensuite on a le portail, donc ce magnifique portail sur lequel on est devant, qui s'ouvre du coup sur cette façade occidentale. Tu peux repérer les 2 petites colonnes de chaque côté qui sont sculptées avec des motifs floraux sur la partie haute. Et ensuite un creux avec une autre sculpture voûtée de petites colonnettes.
Juste pour terminer sur l'église, donc on peut pas y rentrer aujourd'hui puisqu'elle est fermée. Par contre, on peut rajouter qu'elle possède des chapiteaux historiés à l'intérieur. Et puis, on voit que l'église a subi des sondages dans les peintures murales. Donc, on sait qu'il y a un décor peint sous le badigeon actuel.
Si ça te va, Ludo, je propose qu'on fasse le tour pour aller voir ce fameux petit cimetière et son extension.
Allez, allons-y. Un beau petit cimetière enneigé.
Du coup, comme on le disait tout à l'heure devant l'église, ce cimetière, on voit bien qu'il borde le chevet de l'église sur la partie est. Derrière nous, on voit l'ancien presbytère et on voit ce cimetière et son extension qui sont entourés de murs en calcaire. L'extension est assez qualitative puisqu'en fait, elle est juste derrière nous. Et le sol, aujourd'hui on ne le verra pas, mais complètement enherbé, avec juste un petit peu de calcaire au sol. Donc les deux cimetières finalement sont assez beaux et assez en cohérence. Et quand on va voir dans tout le village, On est bordé aussi d'un beau bocage avec des haies d'arbres, hein, comme on le voit aujourd'hui. Et ça, on va le voir tout le long du village, parce que le village est traversé par un béal, par l'eau et par les prés. Donc ça crée toujours un arrière-plan par rapport au bâtiment que l'on va voir. Donc là, on se trouve dans l'ancien cimetière, juste devant une des nombreuses croix qui sont présentes sur le village. Et je vais laisser Nelly un petit peu vous la décrire plus précisément.
Donc oui, la croix devant laquelle nous nous sommes arrêtés est une croix dite pommetée en calcaire datée de 1769. Alors pommetée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a trois boules aux extrémités de ses branches en fait. Voilà, c'est, je pense que vous en aviez parlé pour la visite d'Alinc. Les croix pommetées, elles font suite aux croix fleuronnées qui ont des fleurs au bout de leurs branches. Et puis qui petit à petit vont se simplifier pour se transformer en boules. En forme de pomme, donc boule, pomme, typique de la haute vallée du Lot. On en trouve à d'autres endroits dans la vallée du Lot, comme à Saint-Julien-du-Tournel ou encore à Chadenay, la commune voisine de Sainte-Hélène.
Oh la mairie! Et c'est la salle des fêtes en face?
Oui, là on est sur une deuxième centralité un peu du village avec la mairie qui était anciennement l'école, qui a été très peu transformée. On voit que l'entrée se fait par ce petit perron en pierre calcaire. Tout en haut, si tu le remarques, on voit la petite cloche sur le pignon avec un petit fronton juste en haut. Et derrière nous, la salle communale. Peut-être je laisse un peu Nelly vous parler de cette école.
Bon, on sait peu de choses sur l'école, si ce n'est qu'une première demande de réparation est faite dès 1838. Et qu'ici, on le voit bien dans l'architecture, cette école accueillait garçons et filles. Alors on a vraiment très très peu de documents sur l'école, si ce n'est de belles photos. Des photos de classe et des photos des anciens instituteurs et institutrices avec les enfants.
Ils rentraient par la même entrée, c'était pas séparé comme au Salel ?
Je pense que l'entrée était derrière à l'époque.
En fait, l'entrée historique du bâtiment se faisait par l'arrière, puisqu'on va le voir, tout le vieux village est sur les pentes, juste derrière la mairie. Et on a retourné un petit peu la façade principale quand on l'a aménagée à la mairie, avec une seule entrée le long de la rue principale. Et maintenant devant la salle communale. Donc cette salle communale, pour nous, sérieux, elle est intéressante parce que c'est vrai que les mairies, souvent, elles font des salles communales en dehors du village. Et là, on a vraiment une mairie qui a fait le choix d'implanter cette salle communale sur un pré qui était très utilisé pour les fêtes de village. Et la question, c'était vraiment de savoir comment on pouvait implanter un équipement et une grosse surface en plein cœur d'un village qui est classé et avec une architecture de calcaire. Donc c'est une construction neuve qui est implantée du coup au cœur de bourg. Elle s'ouvre de l'autre côté sur le pré, qui était très utilisé par les habitants et qui l'est toujours aujourd'hui. On voit que la salle elle est très très vitrée et elle permet cette transparence entre la mairie et le pré. Les matériaux, elle est construite en calcaire, on le voit. On a un grand linteau en béton qui lui aussi reprend les teintes du calcaire. Et du coup, on a une architecture qui est à la fois contemporaine, mais qui se marie très bien avec le bâti traditionnel que l'on a autour. Et les architectes, du coup, c'était l'atelier Bessin et Sébelin. Donc là, on traverse la première partie du village où les bâtiments sont plutôt parallèles à la pente qui s'étage jusqu'à la route départementale. Et on a quelques porches comme ça qui permettent d'accéder aux maisons.
Donc un peu plus loin, Nouvelle Croix, Nelly, et également la fontaine du village.
Oui, ce village possède de belles croix. On a déjà parlé de celle du cimetière. On a une croix de mission datée de 1863 sur la place de l'église. Et puis enfin, ici, on est devant la plus ancienne, qui est datée de 1623 et elle est classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1926. Donc une très belle croix en calcaire, de forme très simple, et sur laquelle on devine un départ de fleurs sur les branches, vous voyez, sur les deux branches notamment horizontales, et avec un socle de très belle facture aussi.
Donc là, il y a une fontaine, il n'y avait pas de four ?
Si justement on va aller au four à pain juste après. Et là on peut voir sur notre gauche ces fameux grands jardins potagers dont on parlait tout à l'heure. Et sur la droite donc un porche avec un corps de ferme. Souvent elle qu'on va retrouver sur l'ensemble du village.
C'est vraiment étonnant que tout soit disséminé un peu partout, qu'on ait l'église à un endroit, la mairie, donc l'école à un autre, le four à pain encore à un autre endroit. On le retrouve dans d'autres villages lozériens, ça ?
C'est un peu dû à la topographie, on n'a pas de grande surface plate, donc tout s'est implanté le long d'une voie d'accès. Ça peut être assez courant en Lozère.
Ben on est arrivé au four à pain qui malheureusement est fermé, c'est dommage, on pourra pas voir l'intérieur. Mais on va quand même vous le décrire vu que vous le connaissez, vous.
On est donc devant le four à pain, le four communal du village qui va devenir aussi le repère des vanniers. Donc c'est là où les gens vont se retrouver pour faire de la vannerie lors de veillées. Et d'ailleurs, alors on ne peut pas rentrer, mais croyez-moi sur parole, il y a à l'intérieur du four à pain l'ancien poêle de l'école communale de Sainte-Hélène. Donc ça, c'est plutôt chouette comme clin d'œil à la vue d'autrefois.
Après, sur l'architecture du four à pain, c'est assez classique. On n'a pas vraiment de date du coup pour ce four à pain. On sait qu'il a été réparé au moins deux fois, en 1860 et 1895, mais il est compliqué de donner une date vraiment à ce four à pain. On a la partie cuisson qui est juste devant nous, avec ce toit en losse de schiste assez plat, construit en calcaire. Et puis on a cette fameuse salle juste derrière qui sert justement pour les gens qui viennent faire la vannerie et qui servait de lieu de préparation du pain.
Alors à côté de ce four à pain et des croix qu'on a évoquées, la commune possède aussi un patrimoine lié à l'eau. Et notamment des moulins. Donc trois moulins ont été recensés sur la commune, le moulin de Bonicel, le moulin de Barandon et le moulin de Sainte-Hélène, qui tous étaient utilisés pour le blé, notamment.
Et en parlant d'eau, justement, là, on traverse un petit pont sur lequel on passe par lequel on passe au-dessus du Béal. Alors on voit que le Béal, il a été construit, hein, on voit de chaque côté des murs en pierre. Et il sert vraiment à alimenter les jardins potagers nombreux de Sainte-Hélène. Et on entend le bruit des fontaines, énormément de fontaines ici sur ce bourg. Et du coup, ça participe aussi de l'ambiance sonore du village quand on vient le visiter.
Juste un dernier mot sur ce patrimoine lié à l'eau. Donc on a évoqué les moulins, le Béal. On ne peut pas évoquer Sainte-Hélène sans parler de la centrale hydroélectrique qui est ménagée donc, sur le Lot, une usine de pâte à papier Garnier, puis centrale de la Société lozérienne d'énergie électrique. Cette centrale hydroélectrique est construite en 1926 au bord du Lot. Le maître d'œuvre en est inconnu hein, aujourd'hui. C'est la date 1926 à laquelle l'usine de pâte à papier est mise en service par M. Garnier, ingénieur à Vénissieux, dans le Rhône. On sait que 3 ans plus tard, cette usine à papier est transformée en usine de production d'énergie électrique, donc en 1929, pour 70 ans.
Donc le bâtiment de l'usine, il a une architecture industrielle assez classique. Par contre, ce qui est remarquable, c'est tout le site naturel des gorges de Sainte-Hélène, qui est très fréquenté l'été comme site de baignade. On y accède juste là par ce chemin à gauche. Mais c'est vraiment un lieu assez beau avec certains chaos, des piscines naturelles. Voilà.
Et une plage.
Il n'y a pas vraiment de plage, c'est des gros cailloux, des galets granitiques sur lesquels on peut se poser, créer des piscines naturelles. On retrouve un peu la même ambiance que vers le pont de Montvert, dans cette partie-là des gorges du Tarn, avec des cailloux, des piscines, etc. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Holiday. Everyone dancing merry.
boughs of holly bucking around. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Et une nouvelle fontaine juste après.
Oui, ça participe vraiment. Juste en face de la fontaine, on voit le Béal. Donc quand on parle de Sainte-Hélène et de son lien avec l'eau, on l'a vraiment tout le long du village en fait.
Ça nous permet d'évoquer la vie à Sainte-Hélène au 19e, début du 20e siècle. Donc il faut imaginer des fermes. Et qu'est-ce qu'on fait après les travaux des champs ? Eh bien, les paysans profitent de l'hiver pour mettre de côté les matériaux qui vont permettre de construire ou de rénover, d'agrandir, de retaper leurs bâtiments. Donc on sait que près du village, il y avait une carrière de calcaire qui était extrait à la pioche. Les charpentes sont en majorité faites avec du bois des forêts aux alentours et principalement en peuplier, comme disait Caro, comme nous le dira Caro tout à l'heure. Enfin, on peut voir donc cette belle architecture de calcaire avec des toitures en lauze, extraites des carrières comme celle du Tournel, par exemple. Enfin, voilà, tous les membres de la famille, mais aussi les voisins, participent à la construction d'une maison qui demande un travail énorme. C'est donc par nécessité que les paysans avaient aussi à l'époque des compétences de maçon.
Donc cette architecture un peu locale qu'on voit autour de nous, elle est assez massive. Elle est assez simple par sa facture. On a peu d'ornementation. On faisait la même chose que ce qu'on voyait ailleurs en général. Donc on a des volumes qui sont de forme rectangle, assez simple. Les pignons sont souvent peu vitrés. On a souvent la date du bâtiment qui est sur le linteau de la porte principale. On a quitté la partie du village où les bâtiments étaient assez regroupés, là qu'on voit très bien en face de nous, où on avait justement la maison et la grange souvent côte à côte. Là, on arrive dans la partie un peu moins resserrée, où on a vraiment des corps de ferme à part entière, avec la grange séparée de l'habitation. Ça peut être sous forme de U, sous forme de L. Il y en a une très belle juste au-dessus de nous. Alors les maisons, souvent, elles sont à deux, voire trois niveaux. Il y en a certaines, dont celle qui est juste derrière nous, qui ont des petits pigeonniers. Des petits pigeonniers centraux par rapport à la façade. On le retrouve un peu sur la basse vallée du Lot. Et puis les faîtages qui sont orientés dans le sens de la vallée, dans le sens de la pente. Voilà, c'est une architecture assez simple, classique, mais du fait de la présence de l'architecte des bâtiments de France, qui est quand même assez bien restaurée, assez bien rénovée. Et puis voilà, au milieu des bâtiments, on a des espaces agricoles. Ben, en face de nous, on a un verger. Et on retrouve beaucoup ces jardins potagers qui participent vraiment à l'ambiance aussi du village.
Alors évidemment, les habitants, le village de Sainte-Hélène a aussi connu d'autres histoires liées à la grande histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ou alors avec l'arrivée du chemin de fer aussi, puisqu'elle présente des particularités qu'on n'a pas abordées ici parce qu'on est un petit peu éloigné, mais ça vaut le détour également pour ça. Donc par exemple, pour citer une petite histoire de la Seconde Guerre mondiale, on sait que le village est un refuge pour maquisards en 1944 et que ce village est très surveillé par les Allemands car ils craignent un sabotage de la centrale hydroélectrique qui alimentait à cette époque Mende en électricité. Donc on sait que les villageois sont inquiets et qu'ils vont aller se cacher dans des tunnels inachevés alentour, des boyaux construits lors du chantier de la voie ferrée. Et il paraîtrait qu'il y en a même un sous le village.
Bon, on en arrive à la fin de cette émission. Caro, il y a une actualité sur ce village de Sainte-Hélène ?
On va dire qu'il y a des actualités. La mairie en ce moment reprend les chemins qui ont été très abîmés suite aux inondations récentes. On en parlait tout à l'heure de la vannerie. Il faut savoir qu'il y a des soirées vannerie qui sont organisées à Sainte-Hélène régulièrement et qui devraient normalement reprendre. Une actualité pas tout à fait récente, mais le village a été primé au concours Ville et Village Fleuri du Conseil départemental en 2014. Il a eu un prix spécial. Et puis, bien sûr, les visites guidées du Pays d'Art et d'Histoire qui ont eu lieu cet été, qui auront peut-être lieu l'année prochaine. Cet été, c'était le 18 août, fête du coup de la Sainte-Hélène.
On a une anecdote pour Brillant Société ?
Oui, on ne l'a pas bien vu. Est-ce que tu as remarqué quelque chose à l'entrée du cimetière tout à l'heure quand on est allé le visiter ?
Non, pas vraiment.
Eh bien, il y a au sol une pierre plate épaisse sans aucune inscription. Et cette pierre plate, eh bien, elle est très particulière parce qu'elle nous renvoie à l'hiver 1902, qui a été un hiver très rude. À cette époque, des cambusiers, donc c'est des pauvres qui cherchent du travail lors de la construction du chemin de fer, qui logent dans des masures, c'est-à-dire des cambuses. Eh bien, à cette époque, un ouvrier retrouvé mort de froid sur le chemin. Ses compagnons demandent alors l'autorisation de l'enterrer. Le curé donne l'autorisation de l'enterrer, mais seulement à l'entrée du cimetière. Il a refusé qu'il soit enterré à l'intérieur du cimetière. Donc aujourd'hui, on entre en marchant sur une pierre tombale.
Voilà encore une nouvelle anecdote étonnante pour cette dernière émission de l'année. On vous souhaite bien entendu de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous et vous toutes. En attendant de redémarrer 2022, pour aller où, Nelly ?
Ah bah alors ça, on va attendre les rois mages pour le savoir.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire des Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.